Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Soigner sa cyclothymie, cette clé pour retrouver le contrôle de soi, signé par Élie Antouche, relève de la psychologie clinique et de la psychoéducation en santé mentale. Le livre porte sur la cyclothymie, forme de vulnérabilité thymique marquée par des variations répétées entre phase haute, irritabilité, énergie accrue, ralentissement, tristesse ou hypersensibilité. Son objectif central est de rendre ce fonctionnement plus compréhensible pour les personnes concernées, sans le réduire à une faiblesse de caractère ni à une simple instabilité émotionnelle. Antouche, psychiatre connu pour ses travaux francophones sur les troubles bipolaires et les tempéraments cyclothymiques, inscrit le sujet dans le spectre bipolaire tout en conservant une orientation pratique. Le titre annonce une méthode structurée autour de 7 clés. Mais le cœur du propos reste la reconnaissance des mécanismes, la surveillance des variations, la recherche de soins adaptés et la reprise de contrôle par des stratégies régulières. Le livre se situe ainsi entre guide clinique accessible et outil de réflexion personnelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre la cyclothymie comme vulnérabilité thymique durable. Un apport central du livre consiste à présenter la cyclothymie comme une organisation durable de la régulation émotionnelle, et non comme une succession de caprices ou de réactions excessives. Cette distinction change fortement la manière de lire les symptômes, les variations de morale, de sommeil, de confiance, de sociabilité ou de colère ne sont pas envisagées comme des épisodes isolés, mais comme les manifestations répétées de circuits thymiques instables. Cette approche permet aussi de situer la cyclothymie dans la continuité du spectre bipolaire, avec des formes souvent moins spectaculaires que le trouble bipolaire classique, mais suffisamment invalidantes pour désorganiser les relations, les études, le travail ou les décisions personnelles. Le livre insiste implicitement sur la nécessité de repérer la fréquence, la récurrence et le caractère disproportionné des oscillations. Cette perspective évite deux erreurs opposées, dramatiser toute variation émotionnelle ou banaliser une instabilité qui se répète depuis des années. En donnant un cadre clinique au vécu, Antouche rend possible une lecture plus précise des difficultés et prépare le terrain pour une prise en charge réaliste. Deuxièmement, reconnaître les signes pour limiter les confusions diagnostiques, la cyclothymie est souvent difficile à identifier, car ces manifestations peuvent ressembler à une dépression récurrente, à une anxiété chronique, à une impulsivité de tempérament ou à des difficultés relationnelles. Le livre se distingue par son intérêt pour cette zone grise, fréquente en pratique clinique. Une personne peut consulter surtout pendant les phases basses, lorsque la fatigue, la culpabilité ou la démotivation dominent, tandis que les phases hautes sont vues comme des périodes de retour à la normale. Cette asymétrie peut conduire à une compréhension partielle du problème. Antouche met donc en avant la valeur des indices longitudinaux, alternance des états, changement rapide, hypersensibilité au stress, réactions intenses aux frustrations, rythme de sommeil perturbé, épisode de productivité excessive, suivi de chute. Le raisonnement clinique ne repose pas seulement sur un symptôme isolé, mais sur la dynamique générale. Cette attention au diagnostic différentiel possède une portée pratique importante, car une mauvaise lecture du trouble peut orienter vers des réponses inadaptées. Le livre aide ainsi le lecteur à formuler des observations plus précises avant ou pendant un suivi professionnel. Troisièmement, observer les cycles pour reprendre une marge de contrôle. Le titre annonce une reprise de contrôle de soi, mais cette idée ne signifie pas une volonté abstraite de se discipliner. Dans la logique du livre, le contrôle commence par une observation plus fine des cycles personnels, repérer les variations de sommeil, les changements de rythme, les tensions corporelles, les moments de surinvestissement ou les signes de retrait permettent de transformer une expérience confuse en données utilisables. Cette méthode favorise une meilleure anticipation, une phase haute peut être reconnue avant que les décisions impulsives ne se multiplient. Et une phase basse peut être abordée avant que le découragement ne devienne total. La cyclothymie étant fluctuante, la mémoire subjective peut être trompeuse. Ce qui paraît évident dans un état devient moins accessible dans un autre. Suivre les états thymiques aide donc à réduire cette discontinuité. Le livre valorise une attitude active sans culpabilisation. Il ne promet pas la disparition immédiate des oscillations, mais encourage une connaissance personnelle structurée. Cette dimension psychoéducative donne au lecteur un rôle de partenaire du soin, capable de mieux décrire, prévoir et ajuster ses comportements. Quatrièmement, stabiliser les rythmes de vie comme base thérapeutique. La cyclothymie se manifeste dans les émotions, mais elle touche aussi les rythmes biologiques et comportementaux. Le livre accorde donc une place importante à la régularité, notamment autour du sommeil, des horaires, de la fatigue, des stimulations et des périodes de surcharge. Cette orientation rejoint les connaissances générales sur les troubles du spectre bipolaire, les variations de rythme peuvent amplifier les oscillations thymiques. Tandis que des repères stables réduisent certains déclencheurs, la stabilisation ne doit pas être comprise comme une simple hygiène de vie décorative. Elle devient une composante du traitement, car elle agit sur les conditions qui favorisent les emballements ou les effondrements. Antouche ne remplace pas le soin médical par des conseils de quotidien. Il situe plutôt ses pratiques dans une stratégie globale. Selon les profils, une évaluation psychiatrique et un traitement pharmacologique peuvent être nécessaires, surtout lorsque les variations sont fréquentes, intenses ou dangereuses. La force du livre tient à cette articulation entre gestes ordinaires et regards cliniques. Il montre que le contrôle de soi passe souvent par des choix répétitifs, modestes et cohérents plutôt que par des décisions prises en pleine crise, en dernier lieu. Associer thérapie, entourage et responsabilisation sans culpabiliser, une autre dimension importante du livre concerne la manière de vivre avec la cyclothymie dans les relations. Les variations rapides peuvent créer des malentendus, les proches peuvent percevoir seulement une instabilité de caractère. Tandis que la personne concernée peut se sentir incomprise, envahie par la honte ou tenter de justifier toutes ses réactions par le trouble. Antouche cherche une voie intermédiaire. Reconnaître la cyclothymie ne signifie pas supprimer la responsabilité, mais permet de la rendre praticable. Une thérapie peut aider à identifier les scénarios répétitifs, à travailler la gestion de la colère, à différer certaines décisions, la mieux communiquer pendant les périodes sensibles et à préparer des réponses avant les crises. Le rôle de l'entourage est également important, à condition de ne pas devenir surveillance permanente ou jugement moral. Cette approche relationnelle complète le suivi médical et la psychoéducation. Elle rappelle que la stabilité ne dépend pas uniquement de la personne isolée, mais aussi de cadres de communication, de limites claires et de routines partagées lorsque cela est possible. Le livre garde ainsi une orientation concrète, centrée sur les situations de vie. En conclusion, ce livre convient surtout aux personnes qui se reconnaissent dans des variations répétées de morale, énergie, irritabilité ou impulsivité, ainsi qu'aux proches qui cherchent un cadre de compréhension plus clinique que morale. Il peut aussi intéresser les professionnels non spécialistes qui souhaitent mieux saisir la cyclothymie dans une perspective accessible. Son bénéfice principal est de donner un vocabulaire et une structure à une expérience souvent vécue comme confuse. Le lecteur peut y trouver des repères pour observer ses cycles. Préparer une consultation, comprendre le rôle du sommeil, penser la place des traitements et ajuster ses relations sans réduire toute difficulté à la maladie. Par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel, il se distingue par son ancrage dans la psychiatrie des troubles de humeur et par une prudence clinique plus marquée. Par rapport à des manuels spécialisés, il reste plus lisible et orienté vers la vie quotidienne. Sa singularité tient au positionnement francophone de Élie Antouche. Connu pour avoir contribué à populariser la notion de tempérament cyclothymique et de spectre bipolaire auprès du grand public. Le livre ne doit pas remplacer un diagnostic ni un suivi, mais il offre une base solide pour comprendre, nommer et organiser une démarche de soins. Si vous souhaitez soutenir Élie Antouche, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.